Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Fien.
Zarpazos de quejas, puertos sin mar, eso es Vallecas.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale Cinéma Bis espagnol, avec quelques échanges autour des dernières sorties Artus Film, à savoir un film de 1951 signé Daniel Mangrané et Carlos Serrano de Osma qui s'appelle Parsifal. On causera également de Le Prince enchaîné, un film de 1960 de Luis Lucia. Et puis on abordera des giallos espagnols que certains exégètes appellent Amarillo. Je veux bien sûr parler des Yeux bleus de la poupée cassée, un film de 1974 de Carlos Aored, et Une libellule pour chaque mort, un film de 1975 de Léon Klimovski. Et puis on terminera par évoquer deux films d'un réalisateur qu'on aime beaucoup dans l'émission, Eloy de la Iglesia. Eloy de la Iglesia qui est lui aussi mis à l'honneur par Artus Film avec Personne n'a entendu crier, un film de 1973, et La buraliste de Vallecas, un film de 1987. Intéressant, on va voir un film sous Franco, un film de la transition d'après Franco. On va pouvoir discuter de tout ça.
Esquinas y aceras de par en par, eso es Vallecas. No existe, no queda, no hay quien pueda, lo espiera.
Pour causer Cinéma Bis espagnol, je suis aujourd'hui entouré de mes fidèles acolytes, à savoir Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projections Perdues, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Jérôme et bien évidemment bonjour à toutes.
On va démarrer par deux films qui ont plutôt des allures d'ailleurs de classiques redécouverts hein, grâce à nos amis d'Artus Film. On va d'abord parler de Parsifal puis de Le Prince Enchaîné. Vraiment, deux illustrations de deux héros légendaires hein, avec des visions proposées par le cinéma espagnol. Donc, Parsifal, c'est 51. L'édition d'Artus nous permet de redécouvrir un film assez baroque, assez impressionnant. C'est un film de Daniel Mangrané et Carlos Serrano de Osma, où on connaît l'histoire de Parsifal, hein, protégé par sa mère durant toute son enfance de tout contact avec le monde afin de demeurer pur et innocent. Et oui, ça marche jamais ces trucs-là. Parsifal, ayant malgré tout découvert le mal et le péché, parviendra au terme d'un long chemin épique et intérieur à la découverte du Graal. Plénitude, vie et quiétude de l'âme attendent donc notre ami Parsifal. Alors, Parsifal, quand même, le film a été présenté à Cannes en 52. C'est un film qui était vraiment oublié, que Artus nous a ressorti des placards, là, avec une très très belle copie. Évidemment, Parsifal, hein, Perceval, c'est à la base l'opéra de Wagner, hein, tout simplement, de Richard Wagner, qui est là adapté. L'opéra de Wagner qui, lui, notre ami et ancien chroniqueur William Blanc, grand spécialiste de la question arthurienne, pourrait vous en parler plus en détail, puisque Richard Wagner, en 1882, lui, il avait pris ses sources dans le roman du XIIe siècle, Perceval ou le Comte du Graal, un roman de 1180, de Chrétien de Troyes, ainsi que de l'épopée médiévale Parsifal, qui date du XIIIe siècle, de Wolfram von Eschenbach. Je fais des efforts, hein, quand même. Hein. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai juste appris dans le livret qui est très très bien, qui est présent dans ce Mediabook, qui est signé François-Xavier Consoli, qui connaît très 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 bien son sujet. Et là, le film est assez étonnant, parce que le film ressemble énormément en fait à ce style... À la fois, c'est expressionniste, mais c'est pas un expressionnisme à l'allemande. C'est un expressionnisme plutôt à la version soviétique, quoi. Voilà, en version soviétique, pardon, qui va rappeler, par exemple, Kalatozov, tout ça, tous ces réalisateurs que nous on aime bien, hein, dont on a déjà parlé dans l'émission. Et puis, il y a aussi des lieux de tournage assez magnifiques, hein, puisqu'on a par exemple la montagne de Montserrat. Donc, il y a quelques décors en studio qui sont faits par un peintre quand même, donc un peu oublié aujourd'hui, mais qui était un peintre important, c'est José Caballero. Et l'équipe qui fait le film choisit quand même de nettement simplifier l'intrigue, d'éliminer un peu des personnages, tout ça. Et au final, on a un film alors, qui est très très sophistiqué. Hein. C'est vraiment un film où l'esthétique prime hein, énormément. C'est un film là où, pour moi, en tout cas, la forme compte peut-être plus que le fond, mais enfin d'autres vous diront que la forme c'est le fond et le fond c'est la forme. En tout cas, c'est un film singulier qui mérite d'être découvert, tant cette tentative atypique était tombée dans l'oubli. Elle a pourtant par instant hein, la démesure des plus grandes œuvres expressionnistes, donc on va remercier Artus Film hein, pour nous faire découvrir ce Parsifal, cette vision de Parsifal. Et puis un autre film maintenant, alors qui est plus léger, hein, qui est plus, plus, on va dire, plus... Presque un film d'aventure, quoi. Voilà, c'est Le Prince Enchaîné de Luis Lucia, qui est sorti en 60, qui raconte l'histoire suivante. Le roi de Pologne, Basilio, a fait enchaîner son fils Segismundo dans une tour suite à une prophétie qui prédit que le prince apporterait le désastre dans le pays et surtout la mort du roi. Dans ce cas-là, et hop. Mais bon... On ne peut jamais aller contre les prophéties. Et ça, si le type avait vu d'autres films, il le saurait. Voilà. Donc, aimant malgré tout son fils, et oui, le roi ordonne sa libération, le temps de le mettre à l'épreuve. Mais ayant goûté à la liberté, Segismundo refuse de reprendre les chaînes comme on le comprend. Alors, en 1960, quand Luis Lucia fait Le Prince enchaîné, il part d'une pièce de théâtre, en fait. Il part d'une pièce de théâtre qui, visiblement, est assez célèbre en Espagne, hein, qui s'appelle « La vie est un songe », voilà, et qui traite beaucoup de la condition humaine. Hein. C'est vraiment une pièce plutôt intellectuelle, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, là, on va transformer hein, tous ces thèmes de la pièce. Là, ils sont présents. Hein. Bon, il y a aussi le sens de l'honneur, il y a aussi le conflit père-fils, voilà, des choses habituelles liées à la dramaturgie classique au théâtre, quoi. Et tous ces thèmes-là liés à la pièce sont bien traités dans le film, mais ils sont quand même escamotés au profit d'énormément de scènes d'action. Des scènes d'action qui vraiment servent à mettre en valeur son acteur principal, Javier Escrivá, or qui était une star, hein, mais qu'on a aujourd'hui complètement oublié. Javier Escrivá, qui, comme par hasard, scénarise aussi le film, qui le met en valeur. Voilà, mais bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà. Et le film Très certainement. Alors, qui est pareil, hein, des superbes décors naturels. On peut voir le château de Manzanares, El Real. Et puis, on a la Sierra de Guadarrama, pour ceux qui sont déjà allés en Espagne. C'est quand même déjà des décors de cinéma en soi quand on s'y promène. Et le film, je pense, avait un budget énorme, un peu comme le film précédent dont on a parlé, parce qu'il est très, 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 très spectaculaire. Il n'a rien à envier aux productions qui venaient d'outre-Atlantique à l'époque, hein, voilà. Et il y a des décors fastueux. La photo d'Alejandro Ulloa aussi qui se charge de sublimer le tout. Il est un peu oublié, Ulloa, mais il est très très talentueux. Et il a par exemple travaillé sur pas mal de pépites du bis. Le Perversion Story, alias La Machination de Lucio Fulci, c'est lui. Photo interdite d'une bourgeoise de Luciano Ercoli qui vient s'inscrire dans une trilogie de Giallesque, c'est lui aussi. C'est esthétiquement très très beau. Et puis le grand film, le Western Zapata, Compagnie Rose de Sergio Corbucci. Il a été quand même directeur de la photo sur plus de 100 films, hein, donc il a eu une carrière, si on peut. Alors, le précédent film, Esthétique soviétique, ben là on va parler de Stakhanovist quand même, hein, parce que les types enchaînaient et bossaient. Et puis, alors petit bonus, j'ai envie de dire, petite cerise sur la glace, c'est en chef des Mongols, il y a un certain Paul Naschy. Et oui, Paul Naschy, l'idole de tous ceux qui aiment le fantastique et le bis espagnol, ancien athlète de haut niveau, avec des capacités de catcheur incroyables, ce qui fait quasiment dans n'importe quel film, il fait des prises de catch à ses ennemis, et ça on adore. Et puis surtout, qui était un type avec une carrière absolument incroyable, qui a tourné, alors lui, pas 100 films, mais des centaines de films, qui n'a jamais arrêté de tourner, qui est une vraie idole en Espagne, parce qu'il symbolisait aussi quelque chose de l'ordre de l'antifranquisme, alors qu'il n'était pas forcément très révolutionnaire dans ses prises de position politique, mais en tout cas, il symbolisait quelque chose de l'ordre du héros viril, puissant, typique que l'Espagnol se fantasmait ainsi. Il se fantasmait en Paul Naschy. On a chaque époque a ses fantasmes, après tout, hein, que c'est comme ça. Et on aime tous beaucoup Paul Naschy. D'ailleurs, on va reparler de Paul Naschy dans l'émission, pas plus tard que tout de suite, avec encore d'autres films sortis chez Artus Film, puisque là, on ne parle que de films sortis chez Artus Film. Et on parle d'un giallo espagnol. C'est même le premier avec Paul Naschy et ses beaux pectoraux. Ça s'appelle, mon cher Damien, Les yeux bleus de la poupée cassée.
Pero solo puedo llevarle hasta el próximo pueblo.
Gracias.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Thank you.
Les yeux bleus de la poupée cassée, c'est un film de Carlos Ored et il a une histoire qui est un peu particulière, mais c'est ça qui est intéressant avec les deux autres films qu'on va évoquer, c'est que je trouve que les histoires, les scénarios sont très originaux. Alors ce film, il raconte l'histoire de Gilles, un vagabond qui est joué par Paul Nagy. Il arrive dans un village à la recherche d'un travail et très rapidement, il obtient du boulot auprès d'une femme nommée Claude. Claude, elle a une particularité, c'est qu'elle porte une prothèse au niveau de la main parce qu'elle cache une certaine difformité. Elle va très vite lui donner un emploi. L'emploi, il est très simple, c'est l'homme à tout faire de la maison. Et dans cette maison, il n'y a pas seulement Claude, il y a aussi sa sœur Nicole qui a la particularité d'être une rousse nymphomane, mais également Yvette qui, elle, est handicapée et en fauteuil roulant et qui reçoit très souvent la visite d'un docteur qui essaye de l'aider. Sauf que le problème, c'est que depuis que Gilles est arrivé, il commence à avoir des meurtres qui se répandent dans le village et tout le monde commence à l'accuser. Il faut dire que Gilles n'est pas très net. Donc, est-ce bien lui le criminel ? Pour savoir, il faudra regarder le film. Paul Nagy, comme tu le disais, Jérôme, il met bien en avant son côté très sportif, vu qu'à plusieurs moments, on le va faire poser torse nu pendant qu'il passe la tondeuse, pendant qu'il coupe des trucs à la hache. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il intervient aussi en co-scénariste, donc il a choisi la place qu'il avait. Et même s'il choisit sa place dans le film, vers la fin, il y a beaucoup de rebondissements qui sont très intéressants et auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant, c'est un film des années 70, mais il arrive parfaitement à surprendre au cours de son intrigue. Paul Nagy est incroyable, tout le casting féminin qui l'entoure est très très bon, que ce soit Yvette, Nicole ou bien Claude. Les trois personnages ont tous à l'intérieur du film un destin qui à la fois se croise et se décroise. Bon, après on est dans les années 70, on est sur un film qui va mettre en avant plusieurs personnages différents mais qui va pas non plus les détailler en profondeur. Premier truc par contre qui est bizarre, c'est que l'une des premières scènes, c'est qu'il arrive dans la ville, il arrive dans un bar, il va au bar, il commande un sandwich, un verre de vin. Il demande du boulot, on lui dit qu'il n'a pas de boulot, il prend une gorgée de son verre de vin, il part avec le sandwich et il laisse son verre plein après l'avoir payé. Ça m'a énervé. À l'introduction, je me suis dit « Ah, mais c'est bizarre, c'est vraiment étrange. » Et au fur et à mesure du film, si on revient sur les trucs un peu plus sérieux, au niveau des meurtres, notre Carlos Ored, il se montre pas mal inventif. On va avoir un truc assez classique à un moment, c'est-à-dire une attaque au couteau où on est du point de vue du tueur. Très souvent, il va essayer de changer certains plans. Il le fait pas avec une grande maestria, mais il tente. Et ça, ça s'applaudit un tout petit peu. Même au niveau de la violence, il va essayer des trucs comme des yeux arrachés, comme un cochon qui est éventré. À la fin, d'ailleurs, on comprend pourquoi le film s'appelle « Les yeux de la poupée cassée » et on a une thématique des yeux qui revient un tout petit peu. Il y a un autre truc aussi qui est particulier au cours du film, c'est qu'il y a un thème musical qui revient au niveau du tueur. Ce thème musical, je ne sais pas si ça vous a choqué les amis, mais c'est « Frère Jacques ». Parce que ce qui est sifflé tout au long du film, c'est Frère Jacques. Et je ne crois pas qu'il y ait une explication de pourquoi ils aient choisi ce thème-là. Alors, ils ne le chantent jamais, ils le sifflent. Mais quand on connaît le thème, ça devient très bizarre de l'entendre. Parce que dans les premières notes, on est un peu déconcentré par ça. On se dit, mais ce son, il me dit un truc. Alors, même s'il y a beaucoup de protagonistes, il arrive quand même à mener son intrigue. Et le final, toute cette finale, elle est assez incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, il a réussi à éliminer pas mal de ses personnages. Il arrive à continuer son film. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui s'en sort très bien dans ce qu'il fait, avec une fin qui est assez audacieuse. Il brise pas mal de règles. Mais au final, tout ce qu'il fait, fait sens.
Et est-ce que tu as apprécié le passage total de l'équipe technique devant la glace à la fin ?
J'ai dû me remater
sur le rail de travelling. Et oui, on voit toute l'équipe technique qui passe quand Paul Nagy s'avance, évidemment torse nu, et que ça m'a marqué moi quand j'ai vu ce film-là la première fois, qui est vraiment ce que le cinéma bis produisait de mieux. Alors oui, toutes les femmes sont belles, elles sont toutes des nymphomanes, tous les mecs sont des tarés un peu pervers, voilà. On est dans une époque de films, fallait faire venir le chaland, hein, voilà, dans les salles. Cette utilisation de... Parce qu'on nous... Faut le dire, c'était un cinéma d'impulsion, c'est un cinéma scopique. D'ailleurs, ce cinéma-là, il va après petit à petit aller de plus en plus vers des pulsions de plus en plus inavouables pour faire venir justement le spectateur dans les salles. Et cette utilisation de Frère Jacques est quand même une chanson grivoise en vérité, hein, qui est une chanson à double sens, hein, c'est une chanson ambivalente. Et Est-ce que c'est une manière de tourner en dérision la religion ? Est-ce que on peut le penser ? Il y avait souvent des messages sous-jacents dans le cinéma de genre par rapport justement à l'emprise du franquisme et de la religion dans tous ces films bis. Et souvent, ces personnes qui ne pouvaient s'exprimer réellement utilisaient le médium du cinéma de genre pour justement raconter autre chose. Voilà. Après, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, c'est un dialogue fort efficace. Je pense même que c'est parmi, dans les Amario, c'est parmi les meilleurs avec l'autre, justement, dont tu souhaitais parler, et qui s'appelle, alors le titre est très beau, hein, on retrouve le bestiaire propre au giallo, depuis que Dario Argento en 70 a imposé son oiseau au plumage de cristal, un Ornithus nevalis d'ailleurs qui n'existe pas, on se rappelle bien si on a vu l'oiseau au plumage de cristal, je parle aux initiés, ça s'appelle Une libellule pour chaque mort, alors Une libellule pour chaque mort, qui est sorti l'année suivante, où on retrouve notre Paul Naschy, toujours torse poil et viril, avec un homme, un vrai. Et derrière la caméra, d'ailleurs, un réalisateur argentin, c'est marrant, Léon Klimovski. Écoutez Culture Prohibée spéciale Cinéma bis espagnol.
Léon Klimovski se retrouve à un moment en Espagne, alors qu'en effet il est argentin, il va commencer à faire des films, et en effet il va tourner avec Paul Naschy dans ce film, Une libellule pour chaque mort. Pareil, pour faire rapidement le résumé, tout se passe dans la ville de Milan, on suit l'inspecteur Scaporella qui enquête pour trouver qui est l'assassin qui élimine dealers, prostituées et homosexuels en laissant derrière eux une libellule après de chaque victime. Alors... Paul Naschy, ici, il est un peu moins montré en puissance. Je trouve qu'il a un peu plus une esthétique de père de famille, même s'il n'a pas de famille. Il a un peu cette caractéristique d'enquêteur un peu qui a connu le terrain. Surtout qu'il est en couple avec Erika Blanc. Alors, Paul Naschy, je le trouve formidable dans son rôle. Je crois que c'est mon rôle préféré où il se trouve. Et Erika Blanc, dans le rôle de son épouse, je la trouve aussi formidable. Les deux, ils ont une complicité tendre. Je trouve qu'elle fonctionne à chaque fois. Bon, il y a aussi, vu qu'on a affaire à... ce type de film giallo espagnol, on a constamment sa femme qui est très souvent nue. Ce que je trouve dommage, c'est que quand on regarde l'inventivité des meurtres et des nudités, je trouve que le réalisateur, il fait plus d'efforts pour montrer ses nus et les montrer de manière originale que de montrer ses meurtres, parce que je trouve qu'une partie de ses meurtres, très souvent, sont cachés. Le film a une ambiance étrange. En fait, il a une ambiance assez légère, notamment parce que je trouve que les meurtres, ils sont peu violents, mais aussi parce que Paul Naschy, la complicité qu'il a avec Erika Blanc, elle rend le film un peu tendre. Ils ont cette interaction de couple avec lui qui réfléchit sur l'enquête, lui qui lui en parle, elle qui l'aide à compléter cette enquête, elle qui lui dit... Viens, on va sortir, respirer, rencontrer d'autres amis. J'aime bien le duo qui forme à l'intérieur du film parce que le policier est efficace. Bon, il faut quand même tout le film pour trouver le tueur, mais son épouse aussi, elle l'aide dans la réflexion, ce qui la rend tout aussi efficace que lui. Il y a des éléments qui sont un peu étranges, qui sont amusants. Par exemple, le fait de lier ce mythe du tueur qui laisse une libellule à un mythe minoen antique. Bon, j'ai pas vérifié si c'était le cas, mais... Bien évidemment, j'en doute énormément. L'autre truc qui est très drôle, c'est l'apparition de certains personnages. Je pourrais vous dire nazis partout, justice nulle part, parce que dans le film, on a des nazis qui apparaissent. Il y a une galerie de personnages qui sont très variés. On a des nazis qui sont dirigés par un chef qui s'appelle Mohamed. On a d'autres personnages qui sont un peu plus étranges. On a un prof d'histoire, il semblerait, nécrophile. Vraiment, on a toute une galerie de personnages très particuliers à l'intérieur de ce film, mais ça permet de faire tenir l'intrigue sur tout ce film. Je pense que, comme je parlais du fait qu'il avait plus d'imagination pour montrer des nudités que des meurtres, je trouve que c'est un film, par contre, où on voit un certain déséquilibre. Alors, il y a d'autres films où le déséquilibre est plus grand, mais on a un peu une répétition de nudité, meurtre, moment de tendresse, nudité, meurtre, moment de tendresse. Ça se tient sur ce film, mais pour certains, ça peut devenir à un moment un peu gavant.
C'est le cahier des charges. C'est le cahier. Quand alors c'est des coproductions avec l'Italie, hein, souvent. Quand on avait rencontré Sergio Martino, il nous avait expliqué, par exemple, que il fallait une scène de douche, une scène. C'était dans le cahier des charges du film qu'il devait faire. Alors, il savait plus quoi faire parce que comme il a enchaîné en quelques années 5-6 giallo exceptionnels. D'ailleurs, du coup, il faisait prendre au fil des scènes de douche habillées, tout ça pour emmerder un peu le monde et tout ça pour. C'était un peu. Ça le faisait marrer en fait, sachant que dans ses films, il y avait son lot de nudité aussi. Hein, voilà, ça le faisait marrer d'essayer de jouer avec les clichés, les conventions du genre pour les retourner, les triturer et puis en faire autre chose. Voilà, mais n'est pas Sergio Martino qui veut. Du très talentueux Sergio Martino, certainement un des artisans les plus géniaux qui est connu le cinéma bis à cette époque-là, bon, qui est italien. Léon Klimovsky, c'est différent, c'est plus un réalisateur appliqué, sérieux, qui sait faire son boulot, mais il n'y a pas de coup d'éclat dans la mise en scène dans ce film. Par contre, le film est, je trouve, très intéressant. Alors, d'abord, il y a Erika Blanc, et Erika Blanc, c'est une vraie égérie du cinéma bis, on l'a oublié, mais c'est une rousse flamboyante qui avait physique atypique, il n'y avait pas beaucoup de stars rousses. Il y avait Luciana Paluzzi, ça, il y en avait quelques-unes, il y en avait très peu. Et elle a, c'est un peu une sorte de Rita Hayworth, voilà, un peu à l'européenne, quoi, voilà. Et parce qu'en plus, elle a un peu un physique un peu longiligne comme ça et tout, c'est très différent des canons esthétiques qu'on voyait habituellement dans les films espagnols et dans le giallo aussi. Et puis, elle va, comment dire, être très importante dans cette enquête. Et ce giallo, mine de rien, il tord un peu quelques conventions, parce que généralement, les flics sont nuls dans les giallos. C'est même une des règles du giallo. Oui. C'est-à-dire que c'est un simple quidam qui enquête, très souvent dans un contexte hitchcockien, c'est-à-dire un simple quidam accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et donc il doit lui-même mener l'enquête face à des flics incompétents qui arrivent toujours après la bagarre une fois que tout le monde est mort. C'est souvent comme ça dans les giallos. Et là, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est un flic plutôt aussi un peu la Dirty Harry. On sent que le film de Don Siegel, il vient de sortir et que, bon, voilà, il se prend un peu pour Eastwood, mais n'est pas Eastwood qui veut, hein, c'est pareil, c'est comme pour Martino. Et puis, le film a un stade intéressant, c'est que ce tueur, en fait, on peut le voir comme, alors, j'extrapole un peu, mais ça me paraît assez plausible, vu qu'il y a le contexte avec les nazis, ça et tout, on peut le voir comme une sorte de bras armé du franquisme, en fait. C'est
pour moi, il rentre pas mal dedans.
Voilà, et ça, c'est intéressant.
Avec ce truc de récupérer un mythe minois pour asseoir un peu ce truc du tueur, donc tu récupères un mythe du passé et tu le justifies.
Exactement.
Par la violence qu'il a actuellement, comme beaucoup d'éléments de nations dictatoriales ou fascistes, plus précisément.
Exactement, et c'est ça qui rend le film intéressant, parce qu'il s'en prend à quoi ? À des personnes qu'on juge de mauvaise vie, hein, qui ont des orientations sexuelles qu'on juge contre nature. Du coup, ça donne un petit piquant supplémentaire au film, un intérêt supplémentaire, qui, moi, je trouve, c'est un bon choix d'avoir sorti ces deux-là, parce que c'est deux films vraiment qui se complètent bien avec Paul Naschy et qui sont, pour moi, deux exemples de ce que le cinéma bis qui a disparu aujourd'hui, hein, ce cinéma un peu du milieu, comme on a dit un peu plus tard, mais enfin, ce cinéma populaire, mais en même temps de qualité, avec des artisans qui faisaient bien leur taf, qui a disparu complètement aujourd'hui. Ça fait plaisir de revoir ces films-là. Tu l'as dit toi-même, même par moments, tu es surpris. Parce que c'est aussi des films où on inventait beaucoup de choses et on se permettait tout, puisque de toute façon, c'était destiné à faire venir le chaland. Donc on allait parfois loin dans l'outrance. Voilà. Et puis, même si c'est des films avec des arrière-plans réactionnaires, il y a aussi quelque chose d'assez subversif. C'est marrant, ce paradoxe qu'on retrouve dans ces films-là.
vous écoutez Culture Prohibée.
Testigo accidental de un crimen pasará de ser su víctima.
Lo que he hecho no es tan horrible como usted piensa. Ábrame la puerta.
A ser su cómplice.
Usted me va a ayudar a hacer desaparecer el cadáver de mi esposa.
Nadie oyó gritar en 8 en Madrid.
Alors là, par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout réactionnaire, Thomas, c'est Eloy de la Iglesia. Hein. On sait que ce cinéaste, on en a souvent parlé, homosexuel, antifranquiste, qui a, construit toute une carrière avec un paquet de films, en particulier qui a lancé aussi le quinqui cinéma, hein, c'est-à-dire le cinéma des pauvres, le cinéma du lumpen prolétariat, en mettant en avant des quinquis et des vrais voyous, en fait, dans ses films, qui devenaient du coup des vraies icônes, parce qu'ils faisaient des allers-retours prison. Il jouait dans ses films, parfois c'était ses amants parce qu'il leur fournissait de la dope, ils couchaient ensemble, ça lui a beaucoup nui d'ailleurs hein, au moment de la transition démocratique. Et, un film extraordinaire aussi qui est Le Député hein, sur la transition, la manière dont le Parti Socialiste espagnol va faire cette transition, ses films aussi sur les relations père-fils par rapport à la Guardia Civil, ça c'est important parce que justement il en est question dans le deuxième film. Et tout ça, Eloy de la Iglesia, c'est un cinéaste, on en a beaucoup parlé déjà dans l'émission, on a déjà invité des universitaires qui étaient spécialistes d'Eloy de la Iglesia. Thomas sait que depuis des années, je lui parlais d'Eloy de la Iglesia, c'est un cinéaste qu'on découvrait tous en achetant les Blu-ray qui sortaient aux États-Unis, tout ça, mais il n'y avait rien qui sortait en France. Et là, Artus Film, depuis quelques années, sort tous les films d'Eloy de la Iglesia, en tout cas tous ceux qui ont des belles copies, hein, voilà. Et Thomas, là, ils arrivent avec deux films. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, il y a deux films qui datent de deux périodes différentes, c'est-à-dire un film de 73, personne n'a entendu crier, qui est là à l'époque où Eloy de la Iglesia ne peut pas justement faire ouvertement des films antifranquistes, pro-homosexualité, etc. et tout, et qui va faire, il passe par le biais du thriller. Et puis un film de 87, où là, il n'y a plus Franco, hein, et c'est clairement un film de la transition, un portrait de la société espagnole dans son ensemble, qui s'appelle La Buraliste de Vallecas, d'ailleurs, qui doit être l'un de ses tout derniers films, puisqu'après, il ne va pas tourner pendant très longtemps, à cause justement d'un des acteurs de La Buraliste de Vallecas, qui était aussi son amant, qui était beaucoup plus jeune que lui, et qui meurt d'une overdose. Ça fait scandale en Espagne, enfin voilà, et du coup, il ne tourne pas pendant très, très, très longtemps, plus de 10 ans, je crois. Et puis, il réussit à refaire un film, je crois, qui est plutôt chouette dans mon souvenir, d'ailleurs. Et là, Thomas, toi, tu as pu voir ces deux films en commençant donc, par ce premier film, qui est presque, d'ailleurs, qu'on pourrait presque qualifier, allez, en étant un peu large, de giallo de machination presque, voilà, qui s'appelle « Personne n'a entendu crier Nadie Oyo Grita ».
Effectivement, grâce à Artus Film, moi je découvre ce réalisateur dont tu me parlais effectivement depuis longtemps. Donc personne n'a entendu crier. Giallo de machination, je ne sais pas, mais en tout cas, moi ça me fait beaucoup penser à La Semaine de l'Assassin. Je vois beaucoup de similitudes entre ces deux films, certainement parce que c'est la même période. Et puis on y parle effectivement, il y a de la manipulation. On y parle de manipulation, c'est un peu pervers, c'est un peu retors comme film. Donc c'est une jeune femme. Qu'on voit évoluer à Londres dans une grosse voiture, etc. Puis on découvre en fait que c'est une jeune femme qui se fait entretenir par un homme plus vieux qu'elle et riche. Et donc elle rentre en Espagne. Donc elle va régulièrement à Londres pour rencontrer cet homme qui l'entretient. Elle rentre en Espagne et puis dans son appartement, apparemment dans un immeuble qui est assez déserté, elle n'a qu'un voisin, si j'ai bien compris, un voisin puis un gardien qui est sourd. Un personnage assez étrange. Et à un moment, elle entend crier, enfin, elle entend du bruit, elle ouvre sa porte, elle voit le voisin en train de balancer un cadavre dans la cage, dans la cage d'ascenseur. Donc, c'est assez surprenant, sur le coup. Et cet homme va s'introduire chez elle et l'obliger à l'accompagner pour se débarrasser du cadavre. Donc, c'est ça qui me fait beaucoup penser à la semaine de l'assassin. Donc, il s'agit de se débarrasser d'un cadavre gênant. Mais, ils vont partir ensemble en voiture avec ce cadavre dans le coffre. Mais c'est aussi un scénario à tiroir. C'est un scénario assez malin, assez retors. Un scénario à tiroir, on va découvrir des choses parce qu'au fur et à mesure que le film avance, on se dit, il y a un truc qui cloche. Ce bonhomme-là, qui n'a pas du tout le profil d'un assassin. En même temps, je ne sais pas si... On peut avoir vraiment le profil d'un assassin, mais finalement, il est sympa. Non, il est poli, on va dire. On va dire qu'il a une certaine... Il n'est pas aussi agressif que ça. Puis, il y a des failles qui vont apparaître sur cet homme. Et il y a d'autres personnages aussi qui vont arriver. Puis finalement, qui manipule qui entretient qui, etc. Et donc, c'est un film assez retors sur la manipulation, quelque part sur l'enfermement, parce qu'on est dans une, on finit par découvrir qu'on est dans une spirale.
Alors, ce serait le cadavre de sa femme quand même, faut le préciser. Et en fait, oui, il est physiquement, bon, il représente un Hidalgo de son époque, hein, voilà, bon. Ça c'est une chose, mais par contre il est assez suave, il est assez charmant, il est assez et elle qui est une call girl en fait, hein, c'est pas dit parce qu'on peut pas, c'est pas possible dans un film espagnol tourné à l'époque qu'il y ait une espagnole qui soit une call girl, mais c'est une call girl en fait et qui téléphone régulièrement, qui a d'ailleurs un amant dans chaque port un peu quelque part. D'ailleurs on va rencontrer un autre amant qui lui sans plus l'huile de vidange, quoi, voilà, pour le pas dévoiler trop l'intrigue. Il y a aussi des scènes de suspense particulièrement retors, en particulier un moment où ils se font arrêter un barrage par les représentants de l'ordre, quoi, qui est une scène vraiment de suspense, assez incroyable, quoi. On se met à avoir presque de l'empathie pour des salopards, en fait, parce que c'est pas des personnes sympathiques, en fait, c'est ce couple-là. On se demande même au fur et à mesure que c'est tout le cinéma de la Ecclesia est comme ça. On se demande même d'ailleurs s'ils se connaissent pas vraiment, en fait, s'ils ont pas déjà une relation. C'est très très étrange, en fait, cette relation qu'ils ont entre eux, où ils sympathisent très vite en fin de compte, alors que, enfin, je veux dire, normalement le premier réflexe, moi je sais pas, je vois mon voisin jeter le corps de sa femme, je me tire en courant et je vais au commissariat le plus proche. Voilà. Mais là, c'est assez étrange. Et c'est cette société des non-dits, c'est cette société de la manipulation, cette société du mensonge. Et puis toute l'ambiguïté sexuelle aussi de ces sociétés où on n'a pas le droit d'être ce que l'on est, en fait. On n'a pas le droit de s'affirmer tel que l'on est. Et ouais, c'est un film vraiment étrange, malaisant, comme c'est l'être le cinéma d'Eloy de la Ecclesia. Et Carmen Sevilla, elle est superbe, elle est extraordinaire. Elle jouait déjà dans un autre film qui, lui, n'est pas sorti encore, qui s'appelle El Teco de Glace, le plafond de verre, qui est fait sous couvert d'être une sorte de pareil de giallo de machination ou de pseudo-giallo de machination, traité en fait de la condition féminine sous Franco, puisqu'on se retrouvait avec trois femmes qui vivaient encore dans un endroit isolé avec un seul homme qui était un sculpteur, et il y allait avoir des mœurs de la machination, tout ça. Voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que nos amis d'Artus Film vont finir par sortir ce film extraordinaire. Et on est dans ça, quoi. Et t'as raison, ça rappelle aussi Cannibal Man. Alors Cannibal Man, enfin La semaine d'un assassin, qui est plus maîtrisé, qui est vraiment un très grand film d'Eloy de la Ecclesia, qui est vraiment un de ses meilleurs. Mais on peut reconnaître quand même aussi à Eloy de la Ecclesia de magnifier, de s'intéresser énormément au personnage féminin. D'ailleurs, il fera sa version d'Orange Mécanique avec une femme, qui n'est pas encore sortie non plus en France, qui est disponible en DVD espagnol avec des sous-titres français, pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, ce film-là fait partie pour moi des... j'ai jamais vu de mauvais film d'Eloy de la Ecclesia en même temps, mais de films particulièrement marquants parce qu'ils sont questionnants, en fait, après leur vision.
Il y a aussi un certain humour assez macabre.
Ah oui.
Certaines scènes.
Ah oui, 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 oui. Oui
c'est... Mais c'est aussi, enfin, la façon dont le film est construit, dont il est écrit, le film aussi montre que l'Espagne sous Franco, bah, c'est une prison. Le dernier plan, c'est clairement ça. On est enfermé. On est enfermé dans l'Espagne de Franco. Et le seul moyen d'être ce qu'on est, justement, c'est d'aller à Londres, rouler dans des grosses voitures, dépenser beaucoup d'argent, et puis coucher avec qui on veut, comme voilà.
He was just a poor working man, went to work with his tea in a no-belly can. He died in Spain with a gun in his hand, fighting against Franco for freedom. And the Internationale was the song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom. All for the International Brigade, in the dry dust of Spain his body was laid. That was the price he willingly paid, to fight against Franco for freedom. And the Internationale was a song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom. From the brickworks at Blanta, from down in the mines, from farms and factories, soup kitchen lines, came men who knew of the cruel fascist crimes, to fight against Franco for freedom. And the Internationale was the song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Cinéma bis espagnol.
Mussolini and Hitler provided the shells. We who live on, their story will tell how they fought against Franco for freedom. And the Internationale was the song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom. What started in Spain spread the whole world wide, as Europe succumbed to the full fascist tide. Then they knew who'd been on the right side, fighting against Franco for freedom. And the Internationale was the song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom. And the Internationale was the song they would sing, through the valleys and mountains their voices would ring. From America to China, not for country nor king, they came to fight against Franco for freedom.
Autre film, alors qui lui vient après Franco, mais la transition fut longue en Espagne, hein, on ne sort pas de, d'un règne comme ça en deux temps, trois mouvements, puisque là on est un peu plus de 10 ans après la disparition de Franco, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, on est en 87, c'est la Buralis de Vallecas. Alors là, pitch très très simple, en fait, hein, on ne peut pas faire plus simple, mon cher Thomas. Deux voyous, un jeune, un vieux, dont le fameux acteur et amant José Luis Manzano, l'amant dans la vraie vie du réalisateur, Eloy de la Iglesia, et qui est un quinqui, et qui était un voyou, et qui était un toxico, et qui joue dans tous ces films quinqui aussi d'Eloy de la Iglesia, qu'on retrouve là en petit voyou, braqueur. Ils vont braquer, en fait, une épicerie de village, comme ça, avec un mec plus vieux, et ils se retrouvent, c'est très très étrange, en fait, ils se retrouvent dans ce braquage, avec deux personnes. Alors, Maribel Verdú, toute jeune, très jolie, qui est déjà... où on va jouer déjà avec sa sensualité naissante. Elle n'a que 17 ans au moment du film, hein. Mais elle va beaucoup inspirer les réalisateurs à cette époque-là. Elle fera la grande carrière, puisqu'elle tourne toujours, hein, voilà. Et qui vit avec sa tante, C'est un personnage aussi très étrange. D'ailleurs, on découvre à un moment, il y a une photo, on découvre qu'elle est, en fait, elle avait un... En fait, elle vivait avec quelqu'un de la Guardia Civile. La Guardia Civile, c'est pas n'importe quoi, parce que c'était vraiment le bras armé de Franco, quand même. Hein. Et ils se retrouvent ensemble. Contrairement à ce qu'on croit, ça va pas être un carnage. Ça va être plutôt une illustration par l'absurde du syndrome de Stockholm.
Oui, j'ai un petit peu eu de mal à rentrer dans le film parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est vendu comme une comédie. Au début, je me disais, oh, l'humour, il est quand même un peu, les gags sont un peu éculés et un peu lourds. Mais finalement, j'ai fini par rentrer dans le film et à mieux l'apprécier. C'est une radiographie, encore une fois, de l'Espagne des années 80. Oui, il n'est pas sympathique avec les flics. Hein, il se moque ouvertement d'eux quand il ne montre pas que ce sont des pourris, en fait. Mais il évite aussi de tomber dans les clichés. Alors, il montre bien justement autour de ce braquage comment la société évolue. C'est-à-dire, il montre différents personnages, notamment le vigilante de quartier, etc. Mais il tombe pas dans le discours populiste. À aucun moment, il tombe dans le discours populiste. Et il arrive à jouer, à déjouer tous les clichés comme ça, avec une forme de retrait, de distance. Notamment par cet humour qui, bon, moi, ne me convainc pas toujours, mais finalement, le film, effectivement, est plutôt réussi dans ce qu'il veut montrer. Quoi. Parce qu'au départ, ce qu'il montre, c'est quand même des pauvres contre des pauvres, en fait. C'est un peu ce que la société montre. Enfin, ce qu'est la société aujourd'hui, c'est qu'on monte les uns contre les autres. Et finalement, ces pauvres qui n'étaient peut-être pas forcément du même bord au départ, ben vont finir par sympathiser. Et puis, en fait, ils se disent qu'ils sont dans la même merde, en fait. Et donc, il y a cette solidarité qui va se créer entre les braqués et les braqueurs. Et aussi, ces gens qui regardent autour, qui, eux, ne comprennent pas ou regardent de loin, qui ont leurs clichés, qui, eux, ont leurs clichés, etc. Non, c'est assez réussi de ce côté-là.
Ouais, c'est la comédie humaine, hein. C'est un film assez incroyable. Alors oui, il y a un humour particulier, en même temps, pour aller souvent en Espagne, hein, ça représente bien ce qu'est l'Espagne. Ces antagonismes-là, ils sont toujours présents aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai assisté il y a quelques années, dans une petite ville où je vais régulièrement, on a déboulonné un grand crucifix qui était en fait aussi un monument de l'ère franquiste. Et il y avait les vieux franquistes qui étaient là. Et il y avait le vigilante de quartier qui n'était pas content qu'on enlevait ça. Et puis il y avait la mère qui était là, qui était jeune femme, moderne, Podemos en plus, alors, tout ce qu'il ne fallait pas. Et on retrouvait ça. C'est inquiétant ce que je vous dis là, parce que c'est une société un peu sclérosée, ce n'est pas vrai. Puisqu'on voit aujourd'hui qu'en Europe, c'est un des pays les plus... où il y a la plus grande émancipation, où il se passe le plus de choses, où voilà, on fait énormément progresser les conditions de vie, de pouvoir d'achat, de salaire, du prolétariat. Mais en attendant, à l'époque, on est encore dans cette transition. Et on voit, il fait un truc aussi dans le film. Il parle même du consentement à un moment. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est un film qui brasse énormément de choses. Et on parle aussi du désir chez une femme âgée. Aussi. C'est des trucs, c'est quand même gonflé, quoi. C'est son film le plus connu, hein, et on voit vraiment tous les pans de la société se répandre devant ce magasin, quoi, qui est braqué, qui rouvre, hein, d'ailleurs, à la fin, parce que show must go on, comme dirait l'autre. Et c'est vraiment assez étrange. Oui, c'est un film classiste, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous des prolos, quoi. Donc, au bout du compte, on est contraint de vendre notre force de travail. Donc, de toute façon, voilà, c'est un coco, il a une lecture marxiste de la société, notre ami Eloy de la Iglesia. Et puis, ce qui fait aussi, qui, je pense, va lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort à Eloy de la Iglesia, c'est qu'il y a ce flic qui se dope, quoi. Il y a ce flic qui va voir le lumpen prolétariat, la racaille, l'homosexuel, le revendeur de drogue et tout, et qui va chercher et qui s'enfile sa petite ligne dans sa bagnole. Et ça a fait un scandale monumental, parce que c'est un truc qui est absolument pas acceptable, même dans l'Espagne de 87. Il fait rien. Alors, il remercie les flics à la fin, parce qu'il était pour cette police qu'on voit, même si la tourne un peu en ridicule, parce qu'il était contre la Guardia Civile, mais il est pour cette police. Rappelons qu'il n'était pas manichéen dans ce film qui décrit la relation entre un fils... plutôt voyou hein, dans le député et le père qui est de la Guardia Civile, on voit que le père aime son fils. C'est pas manichéen hein, le cinéma de l'Église, c'est intéressant. Et là, c'est pareil, je trouve. C'est ça qui est fort dans le film.
Alors peut-être les agents, ils les tournent un peu en ridicule de façon sympathique. Mais par contre, effectivement, il y a le flic qui se dope dans sa bagnole, mais aussi le flic qui s'infiltre, qui lui est pas sympa du tout non plus. Hein. Alors, il est pas sympa avec lui non plus. Hein.
Et puis il a cette vision masquée du fameux dictateur avec le bandeau sur l'œil, voilà, c'est qui est une allégorie, avec des gros sabots, on va dire. On voit bien qui regarde faire à un moment d'ailleurs qui se tait, qui a deux doigts d'assister à un viol, mais qui se tait s'il peut se rincer l'œil, ça, c'est le seul qui lui reste. C'est quand même des personnages. D'ailleurs, tout de suite. Alors ça, c'est drôle, je révèle pas, mais il lui arrive un truc à ce personnage. Tout de suite, la dame la plus âgée, elle voit tout de suite le danger qu'il représente. Il est plus dangereux que les deux voyous. Que les deux voyous qui, en fin de compte, sont plus des paumés, quoi. Sont pas des... Enfin, c'est des voyous, mais c'est des paumés, quoi.
Des gens qui essaient de survivre, hein, qui n'ont trouvé que ça comme moyen pour survivre.
Et donc voilà, alors moi, je trouve que le film est... Alors, dans les bonus, je vous invite à voir les bonus Marco Suzal des Cahiers du cinéma qui développe beaucoup de choses sur le film, sur son aspect politique, sur la carrière d'Eloy de la Iglesia, tout ce qu'on un peu ce qu'on se dit maintenant depuis plusieurs émissions autour de ce metteur en scène. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez Eloy de la Iglesia, c'est de constater sa versatilité en fait, parce que c'est quand même un film populaire. C'est un film populaire sous forme d'une comédie, hein, quand même, on peut le dire. Hein. Le film est assez drôle, quand même. Hein, et il partage un truc avec les autres films de la Ecclésia, pour moi, ce qu'il est assez imprévisible, en fait. Bien, bien malin, celui qui saura me dire ce qui va se passer dans le prochain quart d'heure dans ce film. Rien ne se passe comme d'ailleurs dans le film précédent dont on a parlé, comme dans El Pico, comme dans tous ces films, en fait, de la Ecclésia, on est... Toujours, ça c'est une denrée rare quand même. On n'a plus beaucoup de films aujourd'hui qui nous surprennent. Hein. Quand on voit un film, il y a des conventions et on sait toujours à peu près à quoi on va s'attendre. Donc c'est quand même assez surprenant, assez gonflé. Alors peut-être que le film aurait gagné, oui, à être plus resserré, puisqu'il fait deux heures quasiment quand même. Hein. C'est ce qui pour une comédie est quand même assez. Enfin, c'est une comédie noire. Attention, hein. Vous attendez pas à voir. Vous attendez pas à vous marrer pendant tout le film. Vous allez aussi être choqué, être effrayé, être tétanisé par ce qui se passe. Mais c'est quand même effectivement à travers cette version un peu espagnole en fait aussi d'un après-midi de chien de Sidney Lumet, parce qu'on retrouve chez Eloy de la Iglesia. Alors, dans un après-midi de chien, c'est un homme qui braque pour que son petit ami puisse changer de sexe. Mais c'est pas pour rien que les deux films se répondent, je veux dire, c'est normal qu'une thématique comme ça parle à Eloy de la Iglesia. Et c'est un peu la version espagnole de ce film, parce que qu'est-ce qu'on voit ? Il y a là, c'est pas un braquage, enfin si, c'est un braquage. Il y a un braquage, ils sont enfermés chez la buraliste, et puis de l'autre côté, il y a toute la société de l'autre côté, quoi. Et on retrouve cette sécheresse aussi dans la manière de filmer d'Eloy de la Iglesia, qui est un réalisateur sans fioriture. Qui a chez Lumet aussi, du coup, qui donne un... Parce que par moments, les films de la Ecclésia, on a aussi... Alors c'est faux, parce que c'est très travaillé en vérité, mais ça a aussi un aspect presque documentaire. Et dans sa volonté de tracer le portrait d'une société, et puis là, il s'amuse vraiment aussi des conventions hitchcockiennes, hein, où on a ces gens au balcon, un peu comme fenêtre sur cour, et chacun a son avis sur la question... chacun représente un pan de la société et chacun a quelque chose à dire sur ce qui se passe là dans la boutique. Alors définitivement, pour nous en tout cas, enfin pour moi, hein, c'est la buraliste de Vallecas, comme tous les films d'Eloy de la Iglesia, doit absolument être vu. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc, on a parlé de films qui sont tous sortis chez Artus Film, chez nos amis d'Artus Film. Parsifal, film de 51 de Daniel Mangrané et Carlos Serrano de Osma. Le Prince Enchaîné, un film de Luis Lucia de 1960. Les yeux bleus de la poupée cassée, un film de 74 de Carlos Saored, et Une libellule pour chaque mort, un film de 75 de Léon Klimovski. Et enfin, donc, les deux films d'Eloy de la Iglesia, Personne n'a entendu crier, de 73, et La buraliste de Vallecas de 1987. Et donc, on vous conseille vivement ces films. We'll be right back.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.